7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mercredi 9 février. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le pari diplomatique d'Emmanuel Macron a-t-il porté ses fruits? Le chef de l'État de retour en France après sa tournée à Moscou, Kiev et Berlin. On fait le bilan dans un instant après les autres titres.
Ils nourrissent les populations, luttent contre le réchauffement climatique. Début à Brest du sommet sur les océans, l'un des enjeux, réglementer la haute mer. Salah Abdeslam va-t-il parler? Début de son audition sur le fond du dossier au procès des attentats du 13 novembre 2015. Et puis des bons mots de Mitterrand au stratège du PS. En fin de journal, un documentaire politique sur la fin du Parti Socialiste.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
Oui, il sort de sa traditionnelle réserve pour dénoncer la prochaine prise de contrôle de la moitié de l'édition française par Vincent Bolloré. Un danger, un séisme même à ses yeux. Le pape de l'édition française, Antoine Gallimard, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, on se retrouve pour parler de l'Ukraine, du Mali, de l'Europe. Le grand entretien avec l'ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Comme souvent en diplomatie, ce sont plus les symboles, les mots, les rencontres qu'on retiendra de ce marathon diplomatique français de 3 jours que des décisions concrètes dans la crise ukrainienne. Dernière étape hier soir d'Emmanuel Macron en Allemagne, le chef de l'État français de retour à Paris après Moscou, Kiev et donc Berlin. A-t-il fait bouger les lignes et comment la crise va-t-elle évoluer? Élément de réponse avec vous Thibault Lefèvre.
Parmi les réussites, il y a d'abord le symbole. Emmanuel Macron est et restera le premier dirigeant occidental à avoir rencontré Vladimir Poutine depuis l'aggravation des tensions en décembre.
C'est en tout cas un pari qu'il fait qui est tout sauf gagné.
Marie Dumoulin est la directrice du programme Europe élargie du Conseil européen des relations extérieures.
S'il n'y a pas de résultat dans les semaines qui viennent, malgré ces efforts diplomatiques français, c'est un risque. Et on ne pourra juger de la réussite ou de l'échec que dans la suite du processus.
Pour le moment, les avancées sont plutôt minces, avec par exemple des promesses sur une transparence accrue dans le contrôle des missiles déployés de part et d'autre. Mais selon la chercheuse, Emmanuel Macron avance ses pions dans la perspective d'un hypothétique sommet de Paris avec l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre au Donbass.
C'est une réussite dans la mesure où il a quand même réussi à mettre le pied dans la porte et à imposer une voie européenne dans une discussion que les Russes souhaitaient avoir uniquement avec les Américains. Maintenant, les risques restent là et en fait, on ne sait pas ce qui va se passer et ce que les Russes ont décidé de faire dans la suite du processus.
Des Russes qui, encore hier, ont effectué des manœuvres avec l'envoi de 6 navires en mer Noire.
À Berlin, hier soir, les 3 dirigeants français, allemands et polonais ont affiché leur unité pour préserver la paix en Europe et l'activité diplomatique ne s'arrête pas. Olaf Scholz, à son tour, se rendra à Kiev et Moscou la semaine prochaine. C'est notre deuxième poumon après les forêts tropicales. Les océans fournissent 50% de l'oxygène disponible sur Terre, un milieu à préserver, protéger et réglementer. Ouverture aujourd'hui à Brest du premier sommet mondial uniquement consacré aux océans. L'un des enjeux concerne la haute mer, celle qui n'appartient à personne, à plus de 370 km des côtes. C'est 60% des mers du globe et ONG et scientifiques espèrent un nouveau traité avec impatience, Célia Kiré.
Déjà 10 ans de discussion autour de ce Far West des mers et des océans et les États ne sont toujours pas parvenus à un accord. Les eaux internationales sont soumises à différentes pressions, pêche illégale, transport, installation de câbles. Il n'y a pas de cadre légal. Or, c'est une priorité pour le biologiste marin Bruno David, président du Muséum d'Histoire Naturelle.
On est au-delà des juridictions nationales, donc on est chez tout le monde et chez personne. Ce sont quand même des environnements qui ont une grande richesse en termes de biodiversité, qui sont très originaux. L'océan, c'est 96% du volume offert à la vie sur Terre. Parce que la vie dans l'océan, elle est présente à toutes les profondeurs.
Certaines grandes puissances maritimes, la Norvège, la Russie, la Chine ou le Japon ne sont pas favorables à un traité. La biologiste Françoise Gaille, spécialiste du fond des océans, défend une solution, protéger 30% de la surface de la mer, ce qui serait aussi dans l'intérêt des pêcheurs.
C'est aussi un espace sauvage où chacun peut récolter comme il veut, exploiter comme il veut. Les aires marines protégées, par exemple, pourraient être un outil à mettre à disposition des États pour avoir autour d'un réseau d'aires marines protégées des zones qui seraient plus poissonneuses.
Or, 40% des stocks de de poissons sont surpêchés à l'échelle mondiale et les contrôles sont périlleux. En principe, un traité international doit être signé à New York en mars, mais les ONG redoutent déjà un texte assez creux avec peu de mesures contraignantes.
Plus d'infos, c'est sur franceinter.fr. À ce sujet, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement devraient être présents à Brest vendredi pour la clôture du sommet. Toujours des centaines de camions dans les rues d'Ottawa, ces gros poids lourds rutilants stationnés au pied même des bâtiments officiels de la capitale canadienne, peut-être 500 depuis plus de 10 jours, et l'exaspération à son comble des habitants. Le reportage en plein centre-ville de Sébastien Paour.
Des manifestations devant les institutions du pays, André envoie des dizaines chaque année. Un défilé, parfois 2 jours de protestation et le retour au calme, pas cette fois.
Tout est fermé, c'est une ville qui ne fonctionne plus. Je veux ma ville. Je veux que la ville revienne, la vie revienne à la ville.
Une ville encerclée pour Guy, qui vit ici depuis 88.
By far the majority of people.
Pour la grande majorité des gens, c'est un siège,
a siege,
une occupation.
An occupation.
Don boit un café pour se réchauffer en regardant les camions et les feux de camp devant le Parlement. Il ne comprend pas que les manifestants ne soient pas délogés par la police.
I mean, they're barbecuing.
Ils font un barbecue
right here.
Ici.
They're barbecuing right here.
Cette musique.
This music going
Il faut
on.
Virer ces gens.
These ones should be moved.
Il faut montrer que les institutions sont encore debout, d'après lui. Mais le gouvernement fédéral n'intervient pas, au grand dam de Michael, ancien policier.
C'est évident que M. Trudeau a décidé qu'il ne voulait pas négocier avec eux autres.
Guy estime que la sortie de crise sera compliquée.
And hopefully this can be done.
J'espère que tout ça finira sans possibilité de reprise au printemps ou cet été.
We don't want more of this.
Nous ne voulons plus de ça.
We want to end this in a way.
Nous voulons que cela se termine et que les manifestants n'obtiennent rien et qu'on en ait terminé avec eux. Ils s'éloignent, ses patins à glace liés par leurs lacets autour de son cou. Il s'en va patiner sur le canal, comme avant. Ottawa, Sébastien Paour, France Inter.
Ce mouvement baptisé Convoi de la liberté contre les restrictions sanitaires décroche ses premiers résultats. 2 États canadiens renoncent au passeport vaccinal, mais le mouvement prend aussi de l'ampleur. La Nouvelle-Zélande, New York et la France, où on verra sans doute pas beaucoup de camions, mais des camping-cars. Une page Facebook a été créée appelant anti-vax et opposant aux mesures sanitaires à rallier Paris dimanche. On les entendra à 8 heures. Pendant ce temps, le Covid continue de tuer. 363 décès ces dernières 24 heures en France. 500 000 de morts dans le monde rien que depuis l'apparition d'Omicron fin novembre, rappelle l'Organisation mondiale de la santé. Et puis on appelle ça un euphémisme, 2021 a été une année charnière pour Pfizer, dit son PDG. Le groupe pharmaceutique a vendu pour plus de 36 milliards de dollars de vaccins et pourrait atteindre pour la première fois 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec les ventes de son vaccin et de sa pilule.
France Inter 7h07, il est le seul membre des commandos terroristes des attentats du 13 novembre 2015 encore en vie.
Mais va-t-il éclairer la cour d'assises spéciale ? Salah Abdeslam est interrogé aujourd'hui pour la première fois depuis le début du procès sur le fond du dossier. Sans qu'on sache, Sophie Parmentier, quelle ligne de défense il va adopter.
Pendant plus de 4 ans, il est resté mutique face au juge d'instruction. Depuis 5 mois, il parle face à la cour d'assises, parole d'un soldat de l'État islamique justifiant les attentats du 13 novembre. Une réponse au bombardement de la coalition en Syrie, dit-il. Debout face à la cour, sa barbe brune dépassant de son masque noir, Salah Abdeslam a parfois crié dans son box, dans des accès de colère, mais il s'est aussi décrit comme quelqu'un de gentil, un trait de caractère qu'il a d'ailleurs mis en avant lors de son récent entretien avec des psychiatres. Aujourd'hui, la cour doit l'interroger sur son parcours jusqu'à l'été 2015 et sur ses liens avec son grand frère, Brahim Abdeslam, l'un des kamikazes du 13 novembre. L'une des questions qui se pose est aussi de savoir s'il va continuer à s'exprimer face aux magistrats ou s'il va se refermer derrière un droit au silence, comme l'ont fait ces dernières semaine d'autres accusés du box. La cour a également convoqué aujourd'hui de précieux témoins, dont Myriam Abdeslam, la sœur, ainsi que Yasmina, l'ex-fiancée de Salah Abdeslam, qu'il a vu pleurer 3 jours avant les attentats.
Et son interrogatoire est prévu pour durer 2 jours. Le nouveau statut unique des indépendants adopté définitivement cette nuit par le Parlement. 3 millions de personnes concernées. Principale mesure, la séparation des biens professionnels et personnels, ces derniers étant désormais insaisissables en cas de faillite. Autre disposition, facilité d'accès à l'allocation en cas de cessation d'activité. Comment accrocher une cocarde bleu-blanc-rouge à la petite reine ? La bicyclette made in France est rare. À peine 3 vélos vendus sur 20 sont assemblés dans l'Hexagone. Et pourtant, le vélo est en plein boom. On en vend 3 millions tous les ans, peut-être 5 millions d'ici à 2030. Alors pour structurer la filière en France, un député a remis hier un rapport au ministre chargé des Transports. Car les composants des vélos, Thomas Giraudot, restent pour l'essentiel fabriqués à l'étranger.
Cadres, selles, freins, porte-bagages, l'immense majorité de ces pièces de vélo est produite produite en Asie à moindre coût. Mais cette industrie peut être relocalisée en France. Selon le député LAREM, Guillaume Gouffier-Chat, auteur d'un rapport sur la filière, il compte sur les entreprises françaises qui assemblent aujourd'hui les vélos pour se regrouper et trouver des fournisseurs locaux.
Je préconise qu'ils commandent de manière groupée auprès d'acteurs industriels, même si ce sont des acteurs d'autres types d'industries, et notamment de l'industrie automobile ou de l'industrie aéronautique, et bien qu'ils commandent en France. Et c'est cela qui nous permettra, je pense, de récupérer une capacité de production sur un certain nombre de pièces.
Et d'ailleurs, des fabricants français de pièces automobiles frappent déjà aux portes, comme à celle de Jérôme Valentin. Son entreprise Cycleurope assemble entre 60 et 70 000 vélos par an dans l'Aube.
Il y a des industriels de l'automobile qui s'intéressent aux freins, aux cadres. Vous savez, entre un frein hydraulique d'une voiture et un frein hydraulique d'un vélo, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de technologie et en termes de capacité ou de compétences de montage. On peut très bien avoir demain 80% du vélo fabriqué en France.
Mais pour y arriver, l'État doit soutenir financièrement les industriels, plaide Jérôme Valentin. Le chef d'entreprise mise sur le plan France 2030, dans lequel près de 4 milliards d'euros d'argent public doivent aller vers l'automobile et l'aéronautique.
Des vélos parfois électriques, la relance du nucléaire est au programme d'Emmanuel Macron demain à Belfort. Selon le journal Les Échos, il pourrait annoncer sa volonté de construire plus que 6 EPR d'ici à 2045, hypothèse sur laquelle travaille EDF. Le seul EPR en France est toujours, lui, en construction à Flamanville après 11 ans de retard cumulé et un coût gonflé à plus de 12 milliards d'euros. Le nucléaire, sujet de la campagne présidentielle. Alors que sort aujourd'hui ce documentaire politique au titre en forme de jeu de mots, accrochez-vous Nicolas, la deep sarition. En inversant le S et le P de disparition, on obtient donc PS. Enquête donc pour tenter de comprendre comment le parti de Jaurès en est arrivé à ne plus faire rêver la gauche, Laurence Perron.
C'est Julien Drey, surnommé le Baron Noir, qui a soufflé l'idée du film.
Le premier secrétaire, c'est ça son bureau, donc le bureau de Mitterrand, le bureau de Jospin.
Il domine de sa lourde silhouette Mathieu Sapin, petit en taille mais grand en dessinateur de BD politique, qui joue les candides autour de cette question. À quand remonte la mort du PS? À écouter Bernard Collet, ex-comparse du publicitaire Séguéla, qui a fait les campagnes de François Mitterrand, le ver était dans le fruit depuis longtemps.
Vous savez ce qu'il dit Mitterrand à Château-Chinon? Les yeux dans les yeux? C'est 7 ans trop tard. Il vit une relation avec la France, comme si c'était avec une femme. Elle lui cède, 7 ans trop tard. Ils bandent plus pareil. Vous couperez des trucs, hein, quand même.
Mitterrand gagne en 81, mais tue l'espoir en 83. Sa réélection en 88 tient aussi à un marketing habile.
Vous savez ce que c'est que chez Brand?
Bon, vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot, hein. Mais c'est déjà un peu dépassé, hein. Vous auriez dû dire câblé.
2002, l'élimination de Jospin. 2007, la défaite de Ségolène Royal.
Bon, mais moi, je tire un peu la gueule au fond de moi-même, parce que je savais que, bon, c'était fini, quoi.
Puis François Hollande, ensuite trahi avec méthode par Emmanuel Macron, le communicant Philippe Moreau-Chevrolet.
Un conseiller de Macron à qui j'ai dit, mais vous n'aurez pas l'électorat populaire avec vous. Il m'a dit non. Mais on n'en a pas besoin.
Alors, mort ou pas mort, le PS?
Est-ce que 2017, c'est la fin d'une époque?
On ne vous divulgage pas. Réponse en salle aujourd'hui.
L'ipsarition de Jean-Pierre Poddy avec Julien Drey et Mathieu Sapin. Puis un mot de football. Monaco bat Amiens 2-0, se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France. Le choc des petits poussés ce soir, Bergerac contre Versailles, et le choc des pros, Nice-Marseille, 21h15.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France, épisode 8, sécurité et ruralité à Vestric et Candiac. C'est dans le Gard.